Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Smart Training Podcast. Aujourd'hui, un podcast orienté sur le thème de l'hypertrophie, plus précisément l'hypertrophie musculaire. On ne va pas trop parler de l'hypertrophie des tissus adjacents, à savoir tendons, ligaments, capsules articulaires, ce genre de choses, même si c'est également un élément à prendre en compte, notamment dans la prévention des blessures, même si vous savez que j'aime pas trop parler de prévention des blessures. Mais en tout cas, c'est également quelque chose sur lequel on peut se pencher. Aujourd'hui, on va plus parler de l'hypertrophie musculaire. Je pense que c'est un élément qui peut vraiment intéresser les prépa physique, les coachs, les kinés, mais également les pratiquants eux-mêmes, puisque souvent c'est mal compris et quand on comprend mal quelque chose, on peut forcément pas le mettre en œuvre de manière optimale. Donc aujourd'hui, le but, ça va être de vous apporter quelques règles, ou en tout cas quelques lignes de conduite qui me semblent importantes, mais également de mettre en lumière les avantages de ce travail-là, notamment pour les athlètes, et donner quelques conseils également sur tout ce qui est nutrition, sommeil, parce que c'est quelque chose qui impacte énormément l'hypertrophie, et sur lequel souvent on a connaissance, mais on ne se rend pas compte de la portée. Voilà, donc je vous souhaite une bonne écoute en espérant que ça vous plaira. Si c'est possible, d'ailleurs c'est pas si c'est possible, je vous recommande fortement de commenter le podcast, de laisser vos retours, vos commentaires, de partager et d'essayer de me donner un peu de force parce que c'est comme ça qu'on va faire grandir le podcast et c'est quand même quelque chose d'assez facile pour vous et qui moi me donne beaucoup de force. Donc j'espère que vous pourrez le faire à la fin de cette écoute si ça vous a plu. Bonne écoute et à bientôt. Ok, let's go. Donc, on part avec ce podcast sur l'hypertrophie et un premier élément qui me semble fondamental à mettre en lumière, qui est donc l'équilibre entre la tension mécanique et le stress métabolique. La tension mécanique, c'est quoi concrètement? Ça va être la charge que vous allez mettre sur une barre, le poids d'une poulie, le kettlebell, peu importe, la contrainte en kilos ou en newton, vous parlez comme vous voulez, que vous allez mettre sur votre corps en fonction de l'exercice, du signal que vous allez envoyer à votre corps. Au niveau du stress métabolique, on va être plutôt sur le produit de la contraction musculaire, donc des éléments un peu plus biochimiques qui vont apporter concrètement des cascades physiologiques amenant un développement hypertrophique. Maintenant, ces deux éléments-là, ils viennent en collaboration pour pouvoir essayer de développer votre masse musculaire. C'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble, et c'est l'équilibre entre les deux qui va réussir, pardon, à vous permettre de développer au maximum votre masse musculaire de manière la plus optimale. On rappelle que le développement de la masse musculaire, ce n'est pas quelque chose qui se fait en une semaine, 2 semaines, c'est quelque chose sur des mois, des années, et il ne faut pas espérer avoir des résultats très rapides, même si on fait un travail de qualité, sauf évidemment si vous utilisez des produits dopants, ce que je ne vous conseille pas pour plein d'autres raisons, et on ne reviendra pas là-dessus. Quelque chose qui est hyper important à comprendre dans ce travail d'hypertrophie, c'est le temps sous tension, c'est-à-dire le temps que vous allez passer allouer à faire une série. Au moment, par exemple, si je fais un développé couché, je déraque la barre de la première phase excentrique jusqu'à la dernière phase concentrique. Au moment où je re-racle la barre, il s'est passé un nombre de secondes et c'est ce qui va représenter votre temps sous tension sur une série d'un exercice. Ce temps sous tension qu'on va rapprocher du stress métabolique plus que de la tension mécanique. Il est forcément impacté par plein d'éléments, et notamment le tempo, c'est-à-dire votre tempo. Je donne un exemple, si je fais un travail excentrique en tempo 3, 1, x, 0, j'aurai 3 secondes de descente, 1 seconde en bas, je remonte rapidement, j'ai 0 seconde entre deux répétitions. C'est ce qui va représenter un tempo plus orienté excentrique, par exemple. Et ben, ça va forcément impacter votre tempo, votre temps sous tension, pardon. Évidemment, sur deux séries de 10 répétitions au développé couché à charge quasi égale, certains vont faire la série en 20 secondes, d'autres vont la faire en 35 secondes, et ça va forcément avoir des effets différents sur votre corps, et ça a aussi une tension mécanique différente en fonction de votre capacité et votre force maximale. Mais donc, quand vous travaillez en hypertrophie, c'est deux éléments à prendre en considération. Quelle charge je mets sur ma barre et combien de temps je fais durant une série. Et ces deux éléments-là, ils sont à prendre en considération en fonction de différentes règles. La première règle qui me semble hyper importante, c'est la notion de charge et le fait que la charge n'est pas importante. On s'en fout globalement de ce que vous mettez sur votre barre, par exemple, parce que ce qui est important, c'est la charge interne, c'est-à-dire comment vous agencez cette charge et quel effet elle a sur votre corps. Ce qui est important, la première chose la plus importante même, c'est que vous soyez proche de l'échec. Peu importe ce que vous faites comme série, comme travail, si vous avez un objectif d'hypertrophie, il faut que vous soyez proche de l'échec. On voit trop de personnes, trop d'athlètes qui s'entraînent et qui gardent 10 répétitions, 5 répétitions, 6 répétitions en réserve. C'est-à-dire ils vont faire une série de 8 répétitions au développé couché et ils s'arrêtent à 8 alors qu'ils auraient pu en faire 15. Et en fait, ils vont se dire, oui, je suis sur un spectre hypertrophie, je suis entre 6 et 12 répétitions, je fais le taf. Non, tu fais pas le taf parce qu'en fait, ton corps n'aura aucune adaptation, simplement parce que tu es trop loin de l'échec. Et en fait, là, tu fais que brasser de l'air, et tu peux faire ça pendant 6 ans, tu n'auras pas d'adaptation, et tu vas dire, ah, ma programmation, elle était mauvaise, mon préparateur, il était mauvais, mon coach, il était mauvais, mon kiné, il était pas bon. Non, c'est juste que tu t'es menti à toi-même et tu n'as pas fait le taf à un moment. Donc, la deuxième chose à prendre en compte, et on va en reparler un peu après, c'est donc le temps sous tension, vous l'avez compris, c'est le temps qu'on passe à faire une série. Aujourd'hui, ce que montrent les études, c'est qu'à partir de 20, 25, 30 secondes, on est sur un spectre qui est optimal pour de l'hypertrophie. Et ce spectre, il est assez grand. On part de 20 à 25, on peut aller à 1 minute, voire plus. Donc c'est assez large et donc c'est un élément finalement qu'on peut rapidement maîtriser et qui n'est pas le plus compliqué. Contrairement au fait d'être proche de l'échec, car là, ça là-dessus, la plupart des gens ne le sont pas, car c'est dur. Il faut être honnête, le travail en hypertrophie, il est dur. Ensuite, si vous m'avez suivi, c'est possible qu'on aille jusqu'à 25-30 reps, c'est-à-dire ce qu'on va appeler communément de l'endurance musculaire, ce qui pour moi en fait ne veut rien dire. Quand on va sur du 25-30 reps, on est forcément plus sur du stress métabolique et honnêtement, c'est des séries qui vont piquer, ça va être très dur parce que plus d'oxygène, du sang, du sang, du sang, c'est pas agréable. Honnêtement, il vaut mieux être sur un spectre un petit peu plus court et plus autour de la tension mécanique. Que sur du stress métabolique parce que aujourd'hui c'est agréable pour personne de faire des séries très longues, mais on sait qu'on peut développer de la masse musculaire même à 20 répétitions. Dans une programmation, ça peut être pertinent d'aller chercher ces éléments-là parce qu'il y aura aussi d'autres sollicitations des fibres musculaires, on y reviendra également. Aujourd'hui, moi ce que je recommande, c'est quand même d'être sur des séries un peu plus courtes, autour de 5, 6, 7, 8. Moi, c'est ce que je fais avec mes athlètes. Mais on peut aller à 10, 12 et dans les séances, il y aura forcément aussi des séries un peu plus longues. Mais sur des séries un peu plus courtes, on va être sur une sollicitation des fibres musculaires de type 2, des fibres rapides qui ont un meilleur potentiel hypertrophique. Donc finalement, un gain de temps aussi pour développer sa masse musculaire. Mais comme je l'ai dit, n'oubliez pas qu'on peut aller chercher d'autres types de sollicitations parce que si on veut développer sa masse musculaire, on a évidemment les types de fibres 2, on a différentes lignes de tension. Différentes lignes de tissu, pardon, mais les types de fibres 1 qui sont plus lentes sont également à développer et ont également un potentiel qui est inférieur, mais ils ont également un potentiel, donc il ne faut pas les négliger. Le deuxième élément à prendre en considération, c'est le nombre de répétitions en réserve à chaque série. Comme je vous l'ai dit, il faut être proche de l'échec. Ça ne veut pas dire qu'on doit être à l'échec à chaque série parce que nerveusement c'est fatigant et parce que ça va vous tuer au bout d'un moment si vous faites que de l'échec tout le temps. Donc finalement, si je vous dis aujourd'hui j'ai un 3x8 à faire au développé couché et je veux être sur un travail hypertrophie, peut-être que mes deux premières séries, finalement, je pourrais garder deux, trois répétitions en réserve. Ça veut dire que pour une charge que je vais porter 8 fois, j'aurais pu la porter 10 fois, mais je m'arrête à 8 pour garder 2 reps en réserve. Mais par contre, je n'aurais pas pu la porter 14 fois comme certains le font et finalement auront aucune adaptation. Et par exemple, je vais faire deux séries avec 2 reps en réserve sur la première, 1 rep en réserve sur la deuxième, et à la dernière, j'envoie tout et je vais à l'échec. Et je peux même rajouter des séries, des cheat reps ou. Des répétitions trichées, je pourrais ajouter du travail excentrique supplémentaire avec de l'aide sur la concentrique, avec pour objectif de continuer à aller le plus loin dans l'échec parce que c'est ça qui amènera les adaptations voulues. Ensuite, il est important de parler aussi de l'intention de recruter, de stresser un tissu. Car sur l'hypertrophie, contrairement un peu au développement de la force max où c'est des éléments plus nerveux, on est vraiment sur du structurel. Donc pour ça, on peut parler de la contraction volontaire. Je pense que c'est des choses que vous avez déjà entendues. C'est cette idée de vouloir contracter un muscle et de penser à contracter ce muscle. Je peux par exemple sur un développé couché me dire, ok, je me focus sur les pecs, je veux que ce soit mes pecs qui travaillent, alors je pense à contracter les muscles. Et là, on se rapproche un peu de la notion de focus attentionnel, parce que le focus attentionnel, c'est un peu ce sur quoi vous allez porter votre attention pendant un exercice. Et en fonction de votre objectif, ce focus doit être différent. J'en ai déjà parlé dans mes contenus, mais sur le développement de la force maximale, on est plus sur un focus attentionnel externe, c'est-à-dire sur un développé couché, je vais penser à pousser la barre le plus vite et le plus haut possible. Là, je vais être sur de la force maximale plus que sur de l'hypertrophie. Par contre, sur un développé couché où je souhaite de l'hypertrophie, en tout cas, c'est mon focus, je pense notamment en réhab également, c'est important, je vais penser plutôt à contracter mes tissus et notamment, par exemple, mes pecs. Maintenant, c'est évident qu'en fonction du setup, ça va forcément différencier. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une morpho-anatomie avec potentiellement un désavantage pour les pectoraux, qui va plus se sentir dans ses triceps et dans ses épaules, peut-être que là, ce sera important, en plus du fait de penser à contracter les pecs, adapter le setup pour que ses pectoraux soient le tissu principal qui est stressé. Dans un développement athlétique, c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Même si on n'est pas des bodybuilders, on s'en fout un peu de savoir si c'est mon pec qui va plus s'hypertrophier que mon épaule, ça reste quand même important et c'est quelque chose qui, je pense, est important à développer dans l'éducation des athlètes. Pour pouvoir réussir à mieux recruter certains tissus, il y a différents éléments. L'utilisation de l'isométrie, notamment avec un long temps sous tension en inframaximal, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi. Adapter les amplitudes avec des reps partiels en raccourcissement et avec une tension continue, c'est quelque chose qui est aussi intéressant à utiliser. Toujours penser sur ces deux éléments-là, avoir un temps sous tension pardon, assez élevé. Et enfin, en se rapprochant un peu de ce qui peut se faire dans le bodybuilding, la pré-fatigue. La pré-fatigue, quelque chose qui est intéressant. Par exemple, je vais faire une série analytique sur le biceps et derrière, je vais enchaîner avec des chin-ups. Comme ça, j'ai déjà travaillé mon biceps et j'ai pré-fatigué ce muscle-là pour essayer de, entre guillemets, mieux le recruter. Alors, c'est des choses qui comprend en bodybuilding, dans le sens où le bodybuilding, c'est quand même une pratique qui est orientée hyper-hypertrophie. C'est les experts de l'hypertrophie, donc il y a forcément des éléments à prendre dans leur pratique pour pouvoir, nous, en tant que coach, prépa physique, kiné, mieux utiliser nos setups dans un but d'hypertrophie, parce que l'hypertrophie, notamment en réhab, notamment dans la perf athlétique, c'est quelque chose qui est quand même important. Alors, pas pour tous les sportifs, on va y revenir également, mais moi, c'est quelque chose qui me semble important. Le but de tous ces différents outils, c'est d'améliorer la représentation corticale, en gros, la connexion cerveau-muscle. Ensuite, il y a un autre élément qui, moi, me semble primordial, c'est l'utilisation de l'amplitude maximale. Alors, évidemment, ça va être dépendant de votre mobilité, et la mobilité, c'est un élément que je développe pas mal et qui me semble hyper important. Et la mobilité au service de l'hypertrophie, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas faire de squat complet, il va falloir lui donner les outils, que ce soit en travaillant sur ses hanches, sur ses chevilles, sur ses genoux, sur son dos, sur ses épaules, sur son thorax, peu importe, pour qu'il puisse faire du squat complet. Parce que le squat complet, finalement, il a des meilleurs gains hypertrophiques qu'un demi-squat, quoi qu'on en dise. Évidemment, on a tous vu passer les infographies d'Ian Lemmer où on voit que les quads sont plus hypertrophiés sur un box squat, enfin sur un squat partiel que sur un squat complet. Il y a certaines études qui vont montrer l'inverse, mais en vrai, le consensus aujourd'hui, il va dans ce sens. Au plus tu mets de l'étirement, donc au plus tu stresses les tissus dans la plus grande amplitude, au mieux tu as de l'hypertrophie, mais c'est pas tout. Souvent, au mieux tu développes ta force, ton explosivité. Et par exemple, il y a beaucoup d'études qui montrent que sur deux groupes similaires, si tu fais du demi-squat ou du squat complet, ceux qui auront les meilleurs gains en détente verticale après, ce sera ceux qui auront effectué du squat complet. C'est pas pour rien non plus. Mais globalement, quand on apporte plus d'amplitude, on va favoriser l'étirement, on va favoriser le travail excentrique et donc la cascade physiologique biochimique qui amènera une meilleure synthèse protéique. Donc c'est quelque chose qui pour moi est important à prendre en considération. On a aussi différents types d'exercices, des exercices à tension d'étirement ou à forte tension de contraction. Globalement, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui est moins, enfin qui est important, mais qui, je pense, est moins facile à appréhender. Il y a déjà pas mal de choses que je mets en avant aujourd'hui, donc ce sera suffisant. Mais je vais vous donner un exemple, l'hip thrust. Tout le monde connaît le hip thrust. C'est un exercice qui a forte tension de contraction sur lequel on peut mettre une grosse tension mécanique parce que le fessier est un muscle qui est très fort, le plus fort du corps d'ailleurs, et c'est sur lequel on peut aussi mettre beaucoup de charge parce qu'on est sur une amplitude quasiment, enfin un peu réduite. Et on va chercher à contracter les fessiers au maximum. À l'inverse, sur un step-up ou sur du squat complet, on va être plus être sur un exercice à forte tension d'étirement et sur lequel il y aura plus de gains en hypertrophie. Donc je dis pas qu'il faut arrêter les exercices à forte tension de contraction comme le hip thrust. Je dis juste qu'il faut prendre en considération que si on fait que du hip thrust, ah bah on limite ses gains potentiels en hypertrophie et qu'il faut peut-être aller chercher d'autres éléments pour compléter sa programmation. Donc ça, c'est pour moi quelque chose d'important à prendre en considération. Maintenant, concrètement, comment ça se traduit dans vos séances, dans vos planifications, dans vos programmations? Une première chose, ça va être sur le nombre de reps, la fourchette des reps. À partir de 5 reps jusqu'à 20 reps, vous pouvez faire de l'hypertrophie. En tout cas, ce sera la fourchette la plus optimale pour faire de l'hypertrophie. Moi, je vais même réduire un peu cette fourchette pour être plus sur une plus grande contrainte en tension mécanique avec entre 6 et 10 reps. Tu vois, on peut entendre parler d'hypertrophie fonctionnelle, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, notamment dans le développement athlétique, parce qu'on est sur de l'hypertrophie, mais il y a également tous les effets nerveux, enfin, toutes les adaptations nerveuses qui vont continuer à se faire. Alors que sur du 20 reps, c'est vrai qu'on est moins sur des adaptations nerveuses. Et donc, forcément, c'est un petit peu plus du stress métabolique. Et moi, ça m'intéresse un petit peu moins maintenant. Pareil, dans ma programmation, il y aura les deux. Je ne vais pas faire soit l'un, soit l'autre. Je vais essayer de trouver l'équilibre. Et c'est sûr que peut-être que j'aurai un peu plus de 6, 8 reps que de 20 reps, forcément. Mais on peut intégrer les deux. Il faut savoir que les deux peuvent amener des effets hypertrophiques. Et on oublie le classique 8, 12 reps, c'est tout. Il n'y a que ça à faire si on veut prendre de la masse musculaire. C'est faux. On peut aller plus loin parce qu'on a compris les process internes et on n'est pas limité par ces éléments-là. Comme ce que je dis depuis le début, le compromis, c'est réfléchir entre stress mécanique et tension métabolique. Le temps sous tension optimale, comme vous l'avez compris, on va être au-dessus de 25 secondes, enfin 20-25 secondes, et on peut aller jusqu'à une minute, voire plus. Mais c'est pareil, moi je vous conseille entre 25, 35, 40 secondes de temps sous tension, c'est vraiment ce qui me paraît le plus pertinent. On n'oublie pas de changer les stimuli en adaptant les setups, en adaptant les lignes de tension. Je pense notamment, par exemple, concrètement, sur du tirage, on va faire du tirage horizontal, on va faire du tirage vertical, on va faire du tirage avec le coude plus ou moins proche du corps. Quand on sollicite le camp dorsal, par exemple, ça va permettre d'amener différentes lignes de tension et favoriser l'hypertrophie dans son ensemble. C'est des choses qu'il faut également prendre en considération et qui me paraissent pertinentes. On n'oublie pas aussi, comme je vous l'ai dit, qu'en fonction du nombre de répétitions et du temps sous tension, vous allez plus être sur de l'hypertrophie des fibres musculaires de type 1, donc lente, ou 2, rapide. On sait que les rapides ont plus de potentiel hypertrophique. Maintenant, les lentes vont également avoir un potentiel réduit, mais un potentiel aussi. Et quand on cherche à exploiter tous les éléments qu'on a à notre disposition pour optimiser l'hypertrophie, et ben, faut pas oublier d'aller sur les deux éléments. Enfin, on va parler de volume, parce que depuis tout à l'heure, on parle de qualité, et évidemment qu'il vaut mieux favoriser la qualité. Il vaut mieux deux séries à l'échec que quatre séries avec 10 reps en réserve, c'est évident. Donc le volume, c'est quelque chose qui est important, mais qui n'est important que si on met de la qualité dans ce qu'on fait. Mais ce que je voulais vous mettre en avant, c'est qu'à volume égal, dans une semaine, par exemple, si je vais faire 20 séries dans la semaine, mieux vaut falloir couper les séries, c'est-à-dire mettre 3 séances avec 6 séries dans chaque séance, plutôt que faire une séance à 20 séries. On pense notamment au split qu'on va retrouver en bodybuilding. Lundi, je fais les épaules, mardi, je fais les pecs, mercredi, bref, vous avez compris, je coupe les muscles. Ça, je le recommande pas, et moi, je le fais absolument pas, notamment dans le développement athlétique, parce que c'est pas pertinent. Je vais plutôt faire des upper lower ou du full body, en fonction du temps qu'on a et des objectifs de chacun. Mais du coup, si vous me suivez dans la semaine, pardon, on va couper le volume pour faire en sorte que sur 3 séances dans la semaine, j'ai l'ensemble de ma sollicitation. Et on revient sur cet élément-là. Le volume, ce que je conseille également, c'est entre 10 à 20 séries par semaine. C'est ce qui semble le plus pertinent. C'est une fourchette qui est assez large parce que différents muscles auront différentes adaptations et différents besoins. Maintenant, sur quelqu'un qui a vraiment des gros objectifs d'hypertrophie, on va plus être même sur du 15 à 20 séries. Là, on va parler du travail pour développer sa masse musculaire. Quand on veut développer sa masse musculaire, c'est pas facile. Honnêtement, ça demande beaucoup de travail et obtenir des gains en hypertrophie, faut mettre beaucoup de consistance dans son travail et c'est dur. Les séances sont assez dures, faut être honnête. Si on ne travaille pas dur, il n'y aura pas de résultat. Maintenant, une fois qu'on a atteint des gains, c'est beaucoup plus facile de les conserver. C'est-à-dire que j'ai développé ma masse musculaire, j'ai envie de la garder. Finalement, pour la garder, j'aurai beaucoup moins de travail à effectuer. Simplement, quelques séries dans la semaine. On va même pouvoir parler de 2 séries par séance sur un groupe musculaire et on va 2 séries à l'échec. Par contre, faut se mettre la gueule par terre, faut aller à l'échec. Et ben, ça suffira pour garder, pardon, sa masse musculaire. Donc finalement, garder sa masse musculaire, c'est un élément qui est moins difficile. Voilà un peu tous les éléments sur lesquels vous devez vous focaliser si vous souhaitez gagner en masse musculaire. Donc, si je dois faire un petit résumé, ça va être de bien comprendre la notion de tension mécanique et de stress métabolique, l'équilibre entre les deux, et ensuite de prendre en considération que la charge, c'est pas ce qui est important, c'est vraiment la qualité de vos séries qui est importante, qu'on peut aller à l'échec le plus souvent possible, mais qu'il faut prendre en considération qu'on peut garder entre une à trois reps en réserve et qu'il y aura quand même des adaptations, que l'intention est hyper importante, savoir, entre guillemets, penser à son muscle, stresser les bons tissus, c'est quelque chose d'hyper important. C'est pour ça que certaines personnes ont plus de mal à stresser certains éléments, que ce soit la chaîne antérieure ou la chaîne postérieure, en relation avec un autre élément, le plus d'amplitude possible et le développement de sa mobilité. Car si je n'ai pas la mobilité adéquate pour pouvoir recruter certains tissus, c'est évident que je vais avoir des déficits. Donc la mobilité au service de l'hypertrophie, c'est quelque chose d'hyper important. Ensuite, les règles concrètes, ça va être entre 10 et 20 séries par semaine, plus proche des 15-20 si on souhaite vraiment développer sa masse musculaire. Qu'on coupe ces séries sur plusieurs séances dans la semaine, on ne fait pas tout d'un coup, sinon on n'optimise pas son développement hypertrophique et on cherche à avoir un spectre que je recommande entre 5, 8 reps et on peut monter à 20 reps sur certains moments de votre programmation. Maintenant, on va revenir un petit peu plus sur pourquoi l'hypertrophie, quel est l'intérêt de l'hypertrophie selon moi et pourquoi moi je l'intègre de manière vraiment prégnante dans mes programmations et dans la planification sur toute l'année. Moi, il faut savoir que j'interviens que dans des sports collectifs. Donc, c'est évident que je vais parler à des athlètes qui vont être plus sur des sports collectifs que sur quelqu'un qui va faire de la boxe, même si la boxe, c'est aussi quelque chose qui peut être important. Mais on va dire les sports à catégorie de poids où finalement la prise de masse musculaire est importante, mais elle doit être mise en relation avec le développement de la puissance, de la force max, parce que ils ne peuvent pas se permettre de prendre de la masse musculaire indéfiniment, parce qu'il y a des catégories de poids à respecter et qu'il y a cette notion de poids qui rentre dans la performance. C'est pareil en cyclisme, par exemple, en gymnastique, ce genre de choses. Or, moi, en sport collectif, la notion de poids est évidemment importante, notamment à certains postes, mais elle est moins prégnante que dans ces sports-là. Et finalement, dans des sports collectifs où il y a du contact, où il y a de la dureté, la masse musculaire va rentrer en jeu et être importante, bien plus que sur de la masse grasse, où finalement la masse grasse n'apporte jamais rien. Et il vaut mieux prendre de la masse musculaire que de la masse grasse dans tous les sports, mais encore plus dans ces sports-là. Par exemple, j'interviens également au volley. On va me dire au volley, attends, ils n'ont pas besoin d'être hypertrophiés au volley. Sauf qu'en fait, l'hypertrophie, ça ne va pas juste développer la masse musculaire, ça développe la force max, ça développe la puissance, puisqu'on sait aujourd'hui que la force max et la vitesse, ce sont les deux éléments qui vont développer la puissance, et que l'hypertrophie, ça va amener des adaptations tissulaires évidemment, mais des adaptations nerveuses également, et ça va être important pour moi aujourd'hui sur des athlètes, notamment en France où la préparation physique n'est pas forcément hyper développée depuis des années. Eh bien, on se retrouve avec des athlètes où on peut travailler l'hypertrophie, ils auront des adaptations structurelles qui vont avoir des effets bénéfiques sur les adaptations nerveuses, puisque quand tu travailles en hypertrophie, il y a forcément des adaptations nerveuses également, notamment quand tu vas être sur une fourchette de répétition à 5-6 reps, il y a également du travail nerveux, et donc pour moi, c'est quelque chose qui est un bon compromis. C'est quelque chose qui est un bon compromis pour avoir un peu le meilleur de tous les mondes. Maintenant, c'est pas suffisant, évidemment, qu'il faut aller chercher à développer plus sa force maximale, à développer, à faire des éléments plus orientés puissance, des choses avec plus de travail de vitesse, etc. Mais c'est un élément qui, pour moi, est important à prendre en considération, notamment pour également la diminution du risque de blessure. Aujourd'hui, si on fait courir deux gars et qu'on les fait se percuter, il y a de fortes chances pour que celui qui est le plus paré, le plus développé musculairement, et le moins de galères derrière au niveau blessure. Il y a également aujourd'hui beaucoup d'études qui montrent, et vous avez juste à regarder les sportifs, que souvent deux gars qui vont faire un sprint par exemple, celui qui gagne souvent ce sprint-là, ça va être le gars qui va être le plus hypertrophié. Alors on va sortir de la personne qui va me dire oui, mais regarde, par exemple Christophe Lemaitre, lui, il n'avait pas cette masse musculaire, pour autant, il courait très très bien, il a été sous les 10 secondes, etc. Oui, sauf que lui, on va pas rentrer là-dedans, mais il y a des profils force-vitesse qui sont différents, avec une capacité à exprimer de la force à haute vitesse qui est différente. Mais on va dire que dans la moyenne, ce qu'on retrouve le plus aujourd'hui à haut niveau chez les sprinteurs, c'est celui qui est le plus musclé, qui a le plus de masse musculaire, c'est également celui qui va aller le plus vite. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, évidemment, et m'attaquez pas, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, mais c'est quelque chose qui est à prendre en considération aujourd'hui. Et moi, je le vois avec les athlètes que j'ai, ceux qui sont les plus hypertrophiés, c'est également ceux qui sont souvent les plus explosifs, les plus puissants. Et donc, finalement, gagner de la masse musculaire, ça va aussi avoir des effets positifs sur vos performances athlétiques. Comme je l'ai dit, une certaine mesure, c'est-à-dire, je dis pas qu'il faut prendre 25 kilos de muscle, mais on en est loin. Et ne serait-ce que prendre 4-5 kilos de muscle, c'est déjà un gros gros travail à mettre en place. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, me semble important. Ensuite, je pense que sur les athlètes débutants, l'hypertrophie, c'est un élément qui ne rate jamais. C'est-à-dire, ça permet de bien travailler l'éducation sur tous les mouvements, parce que les séries en hypertrophie sont des séries qui sont assez longues. Ça met pas à danger, comme sur la force maximale, les athlètes, et ça reste pertinent. On n'a pas besoin d'aller faire de l'endurance musculaire, même si pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Et des séries très longues, pas de charge, etc., parce qu'on a peur de blesser l'athlète. Non, quand on l'éduque, on peut très facilement aller sur un travail hypertrophique. Et c'est aussi pour ça que moi, dans le cadre du travail que je fais avec les athlètes qui ont entre 15 et 20 ans, ça reste un élément primordial de la programmation. C'est évident que sur quelqu'un de 35 ans qui est déjà très musculeux, il y a peut-être moins cet aspect-là à développer, quoique, ça dépend du contexte. Mais donc voilà, il y a plusieurs éléments qui pour moi sont hyper importants sur le travail d'hypertrophie qui ont des vrais effets bénéfiques. Pour moi, la plupart des athlètes seraient gagnants à vraiment s'investir dans ce travail-là pour pouvoir être plus explosif, plus puissant, plus fort et notamment dans les sports collectifs où il y a du contact, gagner plus de contact parce que finalement, la réalité du terrain fait que si demain je suis amené à rencontrer un gars qui fait à peu près la même taille que moi mais qui fait 15 kilos de plus que moi, quand il y aura du défi physique, je vais le perdre, c'est sûr. Je pense au hand, je pense au basket, je pense au rugby. Les rugbymen, c'est pas pour rien que la plupart sont très 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 développés au niveau musculaire. Au handball, c'est pareil. Au basket, on voit de plus en plus d'athlètes qui ont une vraie carrure et un vrai développement musculaire. Au volley, c'est un peu moins le cas, quoique moi, les athlètes en volley que je vois, alors ils ont des profils physiques différents évidemment, et ils ont des qualités différentes, notamment au niveau nerveux et au niveau explosivité, etc., au niveau détente verticale, déplacement. Mais maintenant, pas mal d'athlètes seraient gagnants à faire ça, d'autant plus que souvent les athlètes vont avoir un body fat qui va être parfois un peu trop haut. Et si tu remplaces ce body fat par de la masse musculaire et donc un poids égal, un gars qui va faire 70 kilos, il est à 18% de masse grasse, tu le passes à 12% de masse grasse, mais tu lui fais prendre de la masse musculaire et il reste à 70 kilos, je vous assure qu'il va être plus performant sur tous les aspects de son jeu. Donc l'hypertrophie, le gain de masse musculaire est souvent aussi quelque chose qui peut être développé en corrélation avec une réduction du body fat et finalement à poids égal des performances qui vont être meilleures. Donc c'est aussi quelque chose qui pour moi est important. Maintenant, pour pouvoir développer son hypertrophie, il y a forcément un environnement respecté. Là, vous avez compris que j'ai mis en avant tous les éléments autour de l'agencement de l'entraînement et de l'implication que vous allez mettre dans votre entraînement. Je vais maintenant parler très rapidement des autres éléments. Je parle notamment au sommeil. Le sommeil, c'est hyper important. Et quand on parle de sommeil pour l'hypertrophie, pourquoi on parle de ça? C'est parce que pendant le sommeil, il y a tout, les cascades hormonales, toutes les cascades hormonales, pardon, qui vont se mettre en place. Et on sait aujourd'hui que la production hormonale favorisant l'hypertrophie via différentes hormones, on ne va pas revenir là-dessus, ça se fait pendant la nuit. Ça se fait pendant la nuit et finalement pendant votre temps de récupération. Souvent, on entend dire, c'est pas pendant l'entraînement que tu reconstruis du muscle. Tu construis du muscle, c'est pendant ta récupération. Tu vas, pour simplifier, casser des fibres musculaires pendant ton entraînement, même si c'est plus compliqué que ça, et derrière, les reconstruire pendant ton sommeil, ta récupération. C'est un peu, on grossit le trait, mais c'est à prendre en considération. Et quand on parle de sommeil, moi, ce que je vais vous recommander, c'est au-dessus de 8 heures de sommeil par nuit et un sommeil régulé, c'est-à-dire on ne va pas dormir de 1 heure à midi. On va mettre ses 8 heures, on va s'endormir à 23 heures, on va se réveiller à 7 heures. Et on va garder ça de manière consistante. C'est comme l'entraînement, il faut que ce soit consistant. On ne peut pas faire un soir à 23h, un soir à 1h, un soir à minuit, et on change tout le temps. Non, il faut trouver sa routine et respecter ça pour que les différents temps du sommeil, vous le savez aussi bien que moi, le rythme circadien, c'est un rythme qui est là depuis des millénaires et qui dépend du soleil, qui dépend de pas mal de choses. Et on le casse aujourd'hui avec nos lumières, avec notre sollicitation permanente sur les réseaux sociaux, sur différents outils qu'on a à notre disposition. Et il faut essayer de s'en détacher pour pouvoir reprendre un rythme circadien qui est optimal avec les différents temps de sommeil, sommeil profond, etc. Il y a pas mal de personnes qui ont travaillé là-dessus. C'est hyper intéressant à les creuser. Je vous conseille, on va pas en parler plus que ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est important à prendre en considération et que je vous recommande fortement. Le sommeil de qualité, et pourquoi pas utiliser des outils pour avoir un sommeil de qualité, c'est-à-dire des routines avant d'aller au lit pour pouvoir s'endormir rapidement. Je pense à de la visualisation, à la pleine conscience, à la respiration, à la cohérence cardiaque. Enfin, il y a plein de choses à faire. À la relaxation. Il y a plein d'éléments que vous pouvez mettre en œuvre, des routines, sortir vos téléphones et ces différents éléments de votre chambre, de votre espace de nuit, avoir un environnement propice à un bon sommeil, c'est-à-dire le noir complet, une température assez basse, on ne va pas au-dessus, on va à 18, 19, 20 maximum, mais on ne va pas au-dessus. Adapter également sa dernière prise de nutrition, c'est-à-dire en fonction de votre manière de manger et de voir comment ça impacte votre sommeil. Certains vont préférer avoir le ventre un peu plus léger, d'autres un peu plus lourd, c'est-à-dire avoir un repas un peu plus conséquent avant de dormir. Ça dépend de chacun, mais trouver sa routine qui vous permet d'avoir le meilleur sommeil possible. Et ensuite, de l'autre côté, il y a la nutrition, évidemment. La nutrition, aujourd'hui, c'est connu, hein. Pour optimiser votre prise de masse musculaire, il y a une chose qui est indispensable, c'est un apport protéique suffisant. Un apport protéique suffisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, alors avec différentes études, pareil, moi ce que je vais vous recommander, c'est entre 1,6 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Je vous conseille d'être plus proche des 2 que des 1,6 pour optimiser, mais ça sert à rien d'aller à 2,5. Au-delà de 2, 2,2, finalement, vous allez manger des protéines qui vont être inutiles. Alors, ouais. Éloignez-vous des personnes qui vont vous dire que ça va vous amener des problèmes de reins, etc. Aujourd'hui, c'est prouvé que ça n'a pas d'effet négatif réel sur les reins, sur ce genre de choses. Par contre, c'est juste de la nourriture que vous allez ingérer qui n'aura pas plus d'effet sur la reconstruction tissulaire et donc qui n'est pas forcément pertinent. Par contre, il est évident qu'il faut respecter cet apport global et que si quelqu'un fait 100 kilos et qu'il mange 100 grammes de protéines par jour, ce ne sera pas suffisant pour pouvoir faire en sorte de développer des tissus, pour reconstruire vos tissus et de favoriser le développement de votre masse musculaire. Là, on va parler de la balance azotée, c'est-à-dire le total protéique, c'est-à-dire combien vous utilisez par jour et combien vous apportez. On va appeler ça la balance azotée. En parallèle de ce volume, donc là on parle de quantité, on va parler de qualité de protéique, c'est-à-dire est-ce que vous avez un aminogramme qui est complet, c'est-à-dire vous avez déjà dû entendre parler de ça, les acides aminés, c'est-à-dire un petit peu la qualité de différentes protéines. Il y a différents acides aminés, on va vraiment parler de ça rapidement parce que ce n'est pas le thème du jour, mais avoir un aminogramme complet, c'est-à-dire les différents types de protéines dans votre alimentation pour faire en sorte que vous puissiez donner à votre corps toutes les cartes, entre guillemets, pour pouvoir reconstruire de la masse musculaire, c'est aussi hyper important. C'est pour ça que, par exemple, les végétariens doivent faire attention à avoir tous les acides aminés essentiels dans leur nutrition pour mieux récupérer, éviter les blessures, reconstruire les tissus, et nous, dans notre cas de l'hypertrophie, développer la masse musculaire. Ça, c'est les deux éléments au niveau protéique qui sont hyper importants. Au niveau lipidique, on sait que les lipides, des bons lipides, des lipides de qualité, comme on dit, oméga-3, vous avez déjà dû entendre ça, oméga-3, oméga-6, etc. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en considération parce que l'équilibre hormonal amené par les lipides, c'est quelque chose qui va vous permettre également de développer une hypertrophie et en tout cas avoir un environnement hypertrophique optimal. Dernier élément, On sait aujourd'hui que la balance énergétique, c'est quasiment le principal élément à prendre en considération dans la nutrition si on veut perdre de la masse grasse, si on veut prendre de la masse musculaire. Pour avoir un environnement favorable à la prise de masse musculaire, on sait qu'il vaut mieux être sur une balance énergétique positive dans laquelle vous allez pouvoir construire du muscle. Alors évidemment, on a toujours ce compromis entre prise de masse musculaire, prise de masse grasse. Et je vous conseille pas d'être dans un mode bulk, c'est-à-dire je mange au maximum, je mange énormément pour pouvoir prendre de la masse musculaire. C'est pas vrai, c'est pas parce que vous allez ingérer 5000 calories que vous allez prendre plus de masse musculaire que si vous ingérez 3500 et que votre balance elle est à 3200. Il faut trouver un équilibre entre les deux, mais c'est évident qu'il faut trouver un équilibre pour réussir à avoir une balance énergétique soit à la limite de votre dépense, soit un petit peu au-dessus pour pouvoir favoriser la prise de masse musculaire. Et évidemment, du coup, vous commencez par voir par rapport à votre poids de corps combien de protéines vous avez besoin, combien de lipides vous avez besoin également, et ensuite vous complémentez avec des glucides qui va être la variable pour pouvoir ajuster votre apport calorique total sur une journée, sur une semaine, sur un mois, peu importe. Mais en tout cas, favoriser un environnement favorable à la construction tissulaire. Voilà un petit peu tous les éléments sur lesquels je voulais revenir avec vous. Alors, c'est assez riche en informations et je pense que ça va demander peut-être relecture pour ceux qui sont novices sur cette approche-là. Mais retenez vraiment que la prise de masse musculaire, ce n'est pas du hasard. Il y a des efforts à fournir. Et il y a que, évidemment, on en vient toujours à celui, on a toujours un pote, on a toujours une connaissance qui est née, était déjà à 15 ans musclé comme jamais, alors que vous avez galéré à prendre 5 kilos de masse musculaire. Et évidemment, on n'a pas tous le même profil génétique. Et l'hypertrophie, c'est aussi dépendant de la génétique. Et certaines personnes auront plus ou moins d'efforts à fournir pour prendre de la masse musculaire. Maintenant, ça ne sert à rien de regarder le voisin, il faut se regarder soi-même. Et pour ne pas se cacher derrière des excuses, il faut se mettre à travailler et être dur avec soi-même dans son entraînement, dans sa nutrition, dans son sommeil. Quand je dis dur, ça veut dire consistant, ça veut dire se mettre à l'effort pour pouvoir avoir les effets escomptés et à long terme. Ce n'est pas du court terme. Et je pense notamment aux athlètes, notamment quand en plus dans la semaine, vous avez d'autres activités athlétiques à faire. Il va falloir vraiment s'y mettre si vous voulez prendre de la masse musculaire, parce que ce n'est pas en faisant une à deux séances par semaine d'une demi-heure. Et à côté de ça, 8 entraînements spécifiques. Je pense par exemple à un basketteur qui va faire 8 entraînements de basket à côté. Il va jamais prendre de masse musculaire à un moment. Il y a des priorités à prendre en compte. Si vous souhaitez prendre de la masse musculaire, il faut faire les efforts en salle de musculation. Il faut faire les efforts dans l'assiette. Il faut faire les efforts dans le sommeil et dans la dépense générale, c'est-à-dire dans votre capacité à amener du stress sur votre corps. Si vous faites 10 heures de spécifiques dans la semaine, et bah, il va peut-être falloir à un moment se dire, ok, je vais peut-être un petit peu moins faire de spécifiques, dans la mesure du possible évidemment, et favoriser mon travail en salle de musculation et les signaux que j'envoie à mon corps pour lui dire, allez poto, mets-moi un peu plus de muscles, mets-moi un peu plus de structure là-dessus, parce que j'en ai besoin pour ma pratique, et après ça peut être aussi pour d'autres objectifs, hein. Mais en tout cas, moi, dans une pratique athlétique et dans un objectif de performance sportive, pour moi, c'est quelque chose sur lequel vous devez vraiment prendre attention, et il faut savoir que c'est pas... Si vous avez un kiné ou un préparateur physique, c'est pas lui qui va travailler pour vous. Je pense notamment au réhab quand vous allez avoir les croisés derrière pour recouvrir un petit peu la masse musculaire sur le quadri. On peut utiliser plein d'outils, le BFR, etc. On peut espérer que le kiné va faire le boulot pour soi. C'est pareil pour les athlètes qui ont des préparateurs physiques. C'est pas la programmation qui compte réellement, peu importe ce qu'on va faire. En vrai, ce qui compte, c'est l'investissement que vous y mettez. Et si vous suivez les règles que je vous ai données juste avant, je vous assure que dans un horizon moyen, long terme, la prise de masse musculaire va se faire et ça aura des effets positifs sur beaucoup d'éléments. Dernière chose, aujourd'hui on sait également que la prise de masse musculaire, le maintien de sa masse musculaire à long terme, c'est également un élément fondamental pour la santé, pour la longévité et pour être en bonne santé à long terme, pour être le plus mobile possible quand on est un peu plus âgé. La masse musculaire, c'est fondamental. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait essayer de comprendre dans un objectif de santé, parce que le sport performance c'est important, mais le sport santé c'est également important. Donc vraiment, la prise de masse musculaire c'est votre ami. Je vous conseille de vous y attarder, d'essayer de pourquoi pas noter les différents éléments que je vous ai dit aujourd'hui pour voir si est-ce que vous les respectez dans votre entraînement. Et la prochaine fois que vous finissez une série et que vous vous arrêtez et que vous n'êtes pas au bout de votre vie, c'est que vous avez triché et que vous avez perdu votre temps. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que vous avez kiffé le podcast et je vous recommande de le partager si c'est possible. Laissez des commentaires positif ou négatif, j'espère positif, et de m'aider à faire grandir ce podcast que j'espère le plus positif possible pour vous. À plus!